Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
C'est trop dur, parce que la neige, elle est trop molle pour moi.
Jean-Christophe Drouet.
Les grandes gueules du sport en direct de l'Alpe d'Huez pour les RMC Sport Games. Nous sommes en direct jusqu'à midi et nous serons également en direct de l'Alpe d'Huez à partir de demain et à partir de 9h. Toujours avec Christophe Cessieux, Stephen Brun, Sarah Pitkowski, Marie Martineau. La montagne, paraît-il, ça vous gagne. Vous préférez quoi dans la montagne, mon Chris? C'est quoi? C'est aller skier?
Le ski et la raclette, les deux.
Le ski et la raclette, voilà. Ok, les deux choses. Steve, qu'est-ce que tu aimes?
À la montagne?
Ouais.
Qu'est-ce que j'aime? La raclette, la petite tartiflette, voilà, c'est tout.
Ok.
C'est pas mon délire, la montagne,
je sais. Oui, je sais. Bah, déjà, tu culmines déjà assez haut,
oui,
t'as pas besoin d'aller encore plus haut.
Cette vanne, c'est l'original surtout. Bravo.
Ah oui, parce que toi, tu sors que des vannes qu'on n'a jamais entendues.
Exactement. Oui. Moi, je suis que dans l'inédit.
Des vannes premium.
Très bien. Excuse-moi, Gad Elmaleh. Sarah, qu'est-ce que tu aimes?
La vue, les montagnes, les couleurs.
Ok. J'ai une super vanne très fumée, mais je peux pas la faire.
C'est quoi?
Quelle est la différence entre un chalet suisse et...
Non.
Si, on veut. Si, on la veut.
Non, on va pas y aller. Marie Martineau, bon, toi, t'es notre skieuse, évidemment. C'est quoi que tu apprécies particulièrement?
Ce que les Parisiens comme toi détestent, la route. Les lacets, faire des grosses montées de l'Alpe d'Huez.
Ah bah alors ça c'est bon.
Plus en bagnole. En car, c'est horrible.
Au fond du bûche. Okay,
non, il faut que je sois au volant évidemment.
Okay. Ah bah je suis d'accord.
Okay. Combien de points déjà Marie là?
Assez, juste assez.
Non mais si je pilote le car, j'ai aucun problème. Mais franchement sinon c'est
pas simple,
c'est
le car, les lacets en car.
Oh, attends, ça doit se piloter facilement. Les copains, j'ai un petit jeu évidemment. Nous sommes donc à la montagne, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui et demain, jouer et tenter de remporter un séjour d'une semaine pour 4 personnes à la montagne. Un séjour d'une valeur de 2000 euros. Inscrivez-vous en envoyant neige au 7-32-16. Neige au 7-32-16. On débute cette nouvelle heure avec cette citation de Jean Jaurès, qui a dit un jour: il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Thibaut Pinot qui va profiter évidemment des derniers mètres. Ça y est, il se lève, il lève les bras, il lève la main. Thibaut Pinot qui remporte donc ce Tour de Lombardie. C'est un exploit, ça fait 21 ans qu'on attendait une victoire française.
Thibaut Pinot qui va aller chercher la victoire d'étape. Thibaut Pinot qui va aller chercher la victoire d'étape. C'était le plan de l'équipe Groupama FDJ. Victoire de Thibaut Pinot. Il passe la ligne, il gagne cette étape.
Allez Thibaut, allez mon grand, tu vas le faire.
Ouais, une image terrible dans le peloton. Thibaut Pinot qui est au bord de l'abandon. Thibaut Pinot qui s'est fait soigner à la voiture médicale.
Il est en pleurs sur son vélo, Thibaut Pinot. Actuellement, il est en pleine souffrance.
Un très gros coup dur pour le coureur de la formation Groupama FDJ qui était 5e au classement général.
Les amoureux de Thibaut Pinot, et ils sont nombreux, craignaient ce jour. Il est arrivé, c'était jeudi, le coureur de la Groupama FDJ a annoncé dans un long entretien à l'équipe la fin de sa carrière à l'issue de la saison. Les courses phares qui l'attendent désormais, le Giro, peut-être le Tour de France. On en parlera avec Marc Madiot, notre grande gueule, dans quelques instants. Pour finir avec le Tour de Lombardie, ses principales punchlines: maintenant je suis prêt pour la vraie vie. Je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à gâcher et à me gâcher la vie. Ma carrière entière est un inachèvement. La musique qui fout les jetons. Et cette question: la carrière de Thibaut Pinot, faut-il avoir des regrets? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui, bien sûr.
Sarah Pitkowski.
Non.
Stephen Brun.
Je sais pas.
Il est partagé pour une fois, tu vas nous dire pourquoi. Marie Martineau.
Alors avant tout, moi je tenais à dire que je vis avec un pinophile.
Exactement.
Et c'est quand même très compliqué. Un pinophile, là. Et c'est très compliqué, là, depuis deux jours, on est en deuil.
Ok, donc oui ou non?
J'ai dû me défaire de tout ça pour me faire ma propre idée. Et j'ai envie de te dire, Jean-Christophe, oui pour nous, mais non pour lui.
Ok, c'est la réponse la plus longue du monde, évidemment, à cette question toute simple. Faut-il avoir des regrets? Avant de débattre, on retrouve notre spécialiste cyclisme sur RMC. C'est Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut les amis. Bonjour Arnaud.
Salut.
Quand on évoque Thibaut Pinot, le Tour de France écrase tout. Au final, c'est quoi son palmarès?
C'est un énorme palmarès pour le vélo français. Je voudrais quand même d'abord rappeler que finalement les années Pinot, elles ont été marquées par le sacerdoce d'une immense attente du public depuis le tout début de sa carrière. Je vous ai sorti quelques dates pour illustrer tout ça. 2012 à Port-en-Truy, la France de Juillet découvre Thibaut Pinot lorsqu'à seulement 22 ans, il remporte une étape pour son tout premier Tour de France. Dès lors, Pinot devient un personnage public sur lequel on compte évidemment pour redorer le blason bien terne alors du vélo français. Sauf que cette pression, Pinot n'en veut pas, et malgré un podium au classement général du Tour en 2014, il passera son temps à se battre pour rester, c'est très paradoxal, le plus anonyme possible. Malgré tout, l'envie de prouver, de gagner dépasse tout, et en 2015, au terme d'un tour raté, il entre un petit peu plus dans les cœurs en remportant la mythique étape de l'Alpe d'Huez. Mais le vélo pour Pinot est en métier, lui ne se sent pas vraiment de ce monde, trop fou, trop exigeant, trop extrême, et n'a qu'un souhait: retourner dans sa campagne natale de Franche-Comté auprès de ses chèvres et de ses ânes dès qu'il le peut en 2018. Il comprend d'ailleurs, au terme d'un tour d'Italie terminé en soins intensifs à cause d'une infection pulmonaire qui tourne mal, que sa vie sera bien meilleure une fois sa bicyclette définitivement rangée. 2019, malgré tout, il triomphe au Tourmalet sur un tour dont il devient alors le favori avant la nouvelle désillusion 6 jours plus tard et cet abandon forcé à 48 heures de l'arrivée à cause d'une lésion musculaire inexpliquée à une jambe. Sa chance a tourné, elle sera définitivement enterrée sur le Tour 2020 quand il chutera et s'abîmera le dos à Nice, blessé dans sa chair au plus profond de son être. Pinot sait alors que la fin est proche, la retraite, il y pense très fort depuis ce jour-là, 3 ans après cette prise de conscience. Elle deviendra donc une réalité juste après le Tour de Lombardie de l'automne prochain, le Tour de Lombardie qui est également le monument qu'il a remporté en 2018.
Merci beaucoup Arnaud Souk et Thibaut Pinot. Vous l'entendrez dans cette émission, il nous a accordé, grâce à toi Arnaud Souk, il nous a accordé un entretien. C'était hier soir, l'intégralité sera à découvrir dans Bartoli Time avec une exclue. Je ne vous en dis pas plus, vous écouterez ça dans quelques instants. Mais on débarre ce débat, faut-il avoir des regrets? On parle de la carrière de Thibaut Pinot, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Sarah, je commence par toi parce que je sais que tu es remontée. Pourquoi?
Je suis remontée... En tout cas, je peux pas me positionner en ayant des regrets, parce que lui n'en a absolument aucun en fait. Il est malgré lui en fait. Il a eu ce palmarès. En tout cas, il le décrit comme ayant il est cycliste avec un palmarès malgré lui. Donc pourquoi avoir des regrets? Pourquoi avoir des attentes puisque finalement lui, ses attentes, elles ont été atteintes. Donc je veux pas en vouloir à quelqu'un qui n'en voulait pas plus, et je trouve même presque maladroit de s'être révélé autant alors qu'il y a encore une saison. J'aurais préféré peut-être à la fin de saison prochaine, quand il arrête, il écrive un bouquin.
Exactement.
Et qu'il livre finalement tout ce qu'il a au fond de lui, parce que là je me dis, mais t'es coureur cycliste, mais t'es pas un sportif individuel. T'es un patron quand même. Et comment on gère une situation comme ça?
Et vous l'entendrez dans cet entretien, lui parle de tournée d'adieu. Il avait envie de dire au revoir à son public. Oui. Et c'est pour ça
qu'il peut faire gratuitement.
Ouais, il impose sa tournée d'adieu.
Marc Madieu, il va payer un mec qui dit je vais faire une tournée d'adieu pour dire au revoir à mon public.
Non, il va pas faire une tournée d'adieu. Il a des ambitions sur le Giro, sur le Tour d'Italie.
Oui, mais il y a quand même une maladresse.
Il a quitté cette course, on s'en souvient, en 2018, alors qu'il était en position de monter sur le podium. Je pense qu'il a encore, et il a fait un très bel hiver, tout le monde le dit, il est en bonne forme. S'il lui arrive pas encore une nouvelle fois des malheurs, il peut encore...
Donc nous le dit pas maintenant. Dis-le-nous en milieu de saison, parce que là en fait quand tu annonces ta carrière, tu dois justifier pourquoi. Et donc en se justifiant, tu te rends compte qu'en fait, il a pas de regrets. Et ça lui suffit. Et donc, je ne peux pas avoir de regrets pour quelqu'un qui n'en a pas pour lui-même.
Moi, j'ai un petit peu de colère contre Thibaut Pinot. Je m'explique. Parce que c'est un garçon qui a eu un don. Certes, le cyclisme, c'est un sport avec beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Mais à la base, il a un talent, il a un don quand même pour le vélo.
Ah, mais il le dit, ça suffit pas.
Thibaut Pinot, ça suffit pas.
Parce qu'il est très bon.
Et pourquoi je suis en colère contre lui? C'est parce que j'ai le sentiment qu'il n'a pas exploité ce don de la nature. Et c'est frustrant pour des gens qui auraient voulu avoir ce don-là, ce talent-là, pour pouvoir être prétendre gagner le Tour de France. Quand je lis sa déclat sur le Tour de France en disant « c'est peut-être un mal pour un bien, j'aurais peut-être pas supporté gagner le Tour de France », est-ce qu'il se voile la face Oui, ou alors c'est un mec qui n'était pas fait pour le sport de haut niveau. En fait, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il aime pas la médiatisation, il aime pas le sport, il aime pas le vélo, il aime pas la compétition.
Il adore le vélo, il y a pas de débat là-dessus.
Il adore le vélo, j'ai pas l'impression qu'il aime le vélo.
Ce qu'il dit, c'est si je vais pouvoir mener la vie dont je rêve maintenant, c'est aussi parce que je n'ai pas gagné le tour, ma vie aurait beaucoup trop changé.
Donc il aurait jamais dû faire du sport professionnel. Il aurait jamais dû faire du sport professionnel, Thibaut Pinot. Quand tu peux gagner le Tour de France, être capable de dire, ma vie aurait changé, je suis bien peut-être content de pas avoir gagné le Tour de France, qui est la plus belle épreuve dans son sport, dans son pays. Ça choque personne que quelqu'un dise ça.
Bah non, parce que c'est pas parce qu'il n'aime pas le vélo, c'est peut-être parce qu'il n'aime pas finalement, les à côté. C'est nous qui avons des regrets parce que c'est peut-être le seul qu'on a pu voir ces 10, 15 ou dernières années capable de gagner le Tour de France. C'est nous qui projetons ça, qui aimerions voir un Français gagner le Tour de France. Et c'est sûr que Thibaut Pinot, avec son gros cœur, généreux dans l'effort, avec un style, il est tellement beau sur son vélo quand il grimpe, là, il a ce style qui lui est si propre, tu le reconnais, alors que s'ils sont 10 de la FDJ, tu le vois tout de suite au milieu et plus grand. Et, bref, tout ça a fait que nous, on nourrit des regrets, mais finalement, on l'a peut-être juste mal compris. Peut-être même que Marc Madiot, finalement, alors qu'on paraissait être un binôme, il paraissait être vraiment un binôme, peut-être qu'il n'avait pas tant compris que ça, en lui donnant les clés, en faisant lui un patron. Peut-être que c'est pas du tout le psyché de ce Thibaut Pinot-là, malgré toutes ses qualités.
On lui posera la question à Marc Madiot dans quelques instants.
Quand tu as toutes ces qualités, tu es obligé, quand tu es patron d'équipe, de tout miser là-dessus. Parce qu'il prenait le salaire, quand même, de patron d'équipe.
Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit un mec qui
non,
est dans
d'accord, mais quand même.
C'est un mec qui n'a pas l'oseille.
Non, il n'a pas l'oseille.
J'en sais rien. Je pense peut-être qu'il préfère.
C'est le seul au monde alors qu'il n'aime pas l'oseille, peut-être, Thibaut Pinot.
Ça peut arriver de ne pas courir pour l'argent.
Ouais, pour l'argent.
Je pense qu'il aime foncièrement le cyclisme, qu'il a kiffé une grande partie de sa carrière, mais qu'effectivement.
Mais il est heureux qu'il
Il n'était pas au niveau des attentes que nous, on mettait en lui.
Est-ce qu'on a le droit d'être déçu pour un champion qui ne l'est pas?
Que lui soit content de sa carrière et qu'il ne regrette rien, peut-être. Mais Pinot, il a dépassé son cas personnel. Toute la France, les amoureux de vélo, ont rêvé avec lui, ont rêvé de le voir remporter le Tour de France. C'était sans doute la plus grande classe depuis la retraite de Bernard Hinault. Donc moi, j'ai fait 22 Tours de France, j'ai jamais vu un Français gagner. Et en 2019, quand il abandonne, alors qu'il est dans le coup, j'ai failli pleurer. Ce jour-là, j'étais au fond du trou.
Ah ben, je te dis pas de
moi, la vie. Et j'ai des regrets éternels de cette journée. Peut-être qu'il l'aurait pas gagné le tour, mais j'aurais tellement aimé qu'il ait la capacité de jouer le coup jusqu'à la dernière étape. Il en restait deux ce jour-là et le lendemain. C'est ça les regrets que j'ai, moi, c'est de pas qu'il ait pas eu cette chance, qu'il ait été vaincu
par
un grand
champion. Parce que les grands champions sont faits de talent.
C'est pas un champion.
Et ben justement, c'est pas un champion, ça s'en est pas un parce que les grands champions sont faits de talent,
il dit que ça,
de travail.
C'est un bon coureur, mais c'est pas un champion.
Très bon coureur.
Et je suis en train de dire un truc bien, je crois. Les grands champions sont faits de talent, de travail et d'un supplément d'âme et de quelque chose en plus dans le psychique, et peut-être que lui n'avait pas ça, et en plus il est le premier à le reconnaître.
Je vous propose de l'écouter, Thibaut Pinot, entretien réalisé hier soir, à découvrir dans son intégralité dans Bartoli Time demain à partir de 19h. Thibaut Pinot, justement, sur cette fin de carrière.
On va dire que ça me trottait dans la tête depuis quelques mois, on va dire, peut-être un an et demi, mais ma décision finale, je l'ai pris au mois d'octobre l'an dernier, ouais.
Au mois d'octobre l'an dernier, on a la sensation, on peut se dire, tiens, pourquoi Thibaut l'annonce aussitôt? C'est pour être vraiment soulagé avant sa dernière saison?
Ouais, être soulagé, commencer la saison, pour être plus tranquille après, ça c'est sûr, parce que c'est quand même, ça rappelle quand même des souvenirs, il y a quand même beaucoup de nostalgie, de messages, donc ça peut perturber aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi le faire aussitôt, et puis aussi pour savoir que les gens qui me supportent, que ce soit pour ma première course sur l'étoile de Bessèges par exemple, ils sauront que ça sera la dernière fois que je serai sur cette course. Donc c'est aussi important pour moi de remercier tout le monde qui était là à me soutenir, et c'est pour ça que je l'annonce aussi assez tôt. Ouais.
Alors pour Thibaut Pinot, il y a évidemment les nombreuses victoires. 33, vous avez gagné sur les trois grands tours, vous avez gagné un monument, le Tour de Lombardie. Et pourtant, on a constamment le sentiment que vous auriez pu faire mieux. Vous finissez par le croire, le j'aurais pu faire mieux?
Oui, non, mais j'en suis conscient. J'aurais pu faire mieux, mais voilà, j'avais aussi des... J'allais le potentiel pour faire beaucoup mieux. mais malheureusement, dans le vélo, il n'y a pas que ça qui joue. C'est vrai que j'ai eu un système immunitaire qui était très, très mauvais pour être, pour faire la carrière que j'aurais dû peut-être dû faire. Elle m'a souvent trahi dans les moments qu'il fallait. Donc voilà, c'est comme ça, ça fait partie de ma fragilité et j'ai su vivre avec au final de, je savais que du jour au lendemain, une grippe, une bronchite pouvait m'arriver et mettre fin à mes espoirs de victoire sur une course. Donc voilà, ça a été compliqué pour moi, mais au fil des années, j'ai appris à vivre comme ça. Ouais.
Les GG, il vous a convaincu, Thibaut Pinot, 7 abandons sur les grands tours, hein, tout de même.
Non, mais il est évident que son immunité est pas au top et pas au niveau de tous les grands champions du Tour de France, parce que le Tour et même la carrière de coureur cycliste, t'es dehors du mois de février jusqu'au mois d'octobre, tu prends des averses sur la gueule, t'es pas dans une salle de basket où il fait bien bon chaud et t'es tranquille. tu dois affronter les éléments. Et évidemment, ce genre de choses. Non, mais c'est vrai qu'il il a été vaincu. Notamment dans le Giro en 2018, il abandonne l'avant-veille de l'arrivée.
Il est quatrième.
Terrible. Il finit en soins intensifs.
Système immunitaire. Moi, je ne comprends toujours pas ce mystère de 2019, cette blessure qui n'a pas d'explication, n'a pas de cause.
Si,
elle a disparu. Elle a disparu comme elle est arrivée. La blessure. Elle a disparu.
Il y a une sorte. Il y a toujours.
C'était pas une grave blessure, mais ça l'empêchait de jouer la gagne sur le Tour de France parce qu'il pouvait plus. Quand t'as une cuisse blessée, tu peux pas pédaler dans un col.
Une déchirure à la cuisse. Déchirure. Il le dit. Ça restera un mystère et c'est pour ça qu'on se pose la question parfois de l'acte manqué.
Non, mais les mystères, tu peux aussi essayer de les percer. Un mec comme Bardet, il avait aussi des problèmes en même temps que Pinot. Il a fait des choix. Il s'est rendu compte de certains trucs. Il a voulu faire des changements, opérer des changements et voir si éventuellement. Ça pouvait avoir un impact sur ses performances sportives. En l'occurrence, on est en train de le mesurer. Donc, je pense que Thibaut, il n'a jamais trop non plus voulu sortir du schéma dans lequel il était. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas capables de faire face à ça et de vouloir opérer des changements.
Tout le monde voulait qu'il gagne le Tour de France, qu'il fasse le Tour de France. Il a décidé un jour de dire le Tour, ce n'est pas pour moi, je vais aller essayer de gagner le Giro. Et puis, il s'est planté là aussi. Il a essayé de changer quelques trucs quand même. Bon, c'est vrai qu'il aime bien être dans ses pantoufles, être entouré de son frère et de sa
ses animaux,
rapprochée, ouais. Et de rentrer à la maison à Mélisée et de voir Cézanne et ses chèvres. Mais c'est un regret éternel, ce garçon.
Regret éternel, on l'a bien compris. Avant d'accueillir Marc Madiot, je vous disais une exclue avec Thibaut Pinot. Donc hier, dans cet entretien, à un moment donné, je lui demande si cette décision, un petit peu comme à Koh-Lanta, est-ce qu'elle est irrévocable? Thibaut Pinot, la réponse, écoutez bien.
Alors j'ai fait, pour la petite anecdote, j'ai fait un pari avec quelques copains de l'équipe. La seule possibilité que je continue 6 mois, on va dire, 6 mois, ce serait d'être champion de France pour porter le maillot bleu, blanc, rouge pendant un an. Donc on va dire que ce serait la seule condition que je puisse peut-être continuer en 2024.
Ok, donc il y a une possibilité de vous voir encore quelques mois, mais pour remporter cette course.
Pour être champion de France. Le champion de France qui a lieu en juin. Donc faire un an avec le maillot bleu blanc rouge, ça a toujours été aussi un rêve pour moi. Ouais.
Un rêve pour lui. Il pourrait peut-être continuer. Qu'est-ce qu'il y a, Sarah?
Je suis désabusée, en fait. Je suis désabusée,
il est illicite. Mais ce serait bon de le voir avec le maillot.
Oui, non, mais très bien. Mais
même si
je comprends pas. J'aimerais bien avoir que Marc soit là. Bon, parce que j'ai plein de questions à lui poser, parce que je comprends pas.
Ça se trouve, Marc, il comprend pas non plus.
On va l'avoir dans quelques instants avec nous, et l'intégralité de cet entretien avec Thibaut Pinot est à retrouver dans Bartoli Time avec Marion Bartoli. Ce sera à 19h demain. À tout de suite sur RMC avec Marc Madiot, qui a donc été appelé parce que les GG le réclament. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet.
Jean-Christophe Drouet.
Les grandes gueules du sport en direct de l'Alpe d'Huez pour les RMC Sport Game. Il est 11h30, toujours avec les GG, Stephen Brun, Christophe Cessieux, Marie Martineau, Sarah Pitkowski. Il y a quelques instants, nous évoquions, nous parlions de Thibaut Pinot qui a donc annoncé en cette fin de semaine la fin de sa carrière à l'issue de la saison. Vous avez tous convoqué notre GG Marc Madiot. Vous voulez lui poser des questions, ça tombe bien. Notre Marc adoré est avec nous. Salut Marc, bonjour.
Salut les GG, vous allez bien ?
Coucou.
Salut Marc. Bonjour Marc.
Très bien Marc, tu nous manques, on est là, on est toi qui connais parfaitement la montagne, on est à l'Alpe d'Huez évidemment, ouais. Un lieu mythique.
En général, moi quand je vais à l'Alpe d'Huez, il n'y a pas de neige.
Du Tour de France, bah, nous non plus, il n'y a pas de neige. Non, je blague évidemment, il y a de la neige.
Mais bah, enfin, bah, Marc, ski en juillet, hein, c'est comme,
ouais, ouais. Comme dans les bronzés. Je suis pas un grand cœur, moi, je suis pas un grand cœur.
Bon Marc, j'imagine que tu as entendu notre débat. Tu as
et non malheureusement. Et non malheureusement.
Alors les GG ont des questions à te poser par rapport à cette retraite de Thibaut Pinot. La première déjà. Est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es déçu? C'est quoi le sentiment qui prédomine là quelques heures après l'annonce de cette retraite?
Bah en fait l'annonce, elle est pour tout le monde aujourd'hui, mais au sein de l'équipe, on était quelques-uns à avoir la confidence depuis quelques semaines. Puisqu'à l'intersaison, j'avais eu une conversation avec Thibaut me précisant le fait qu'il allait mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison 2023. Donc là, l'annonce qui a eu lieu il y a 48 heures ne m'a pas surprise.
Ouais, je précise évidemment que son contrat s'arrêtait jusqu'en 2023. Marie Martineau veut te poser une question.
Oui, salut Marc. Alors j'ai une question salut. En deux temps. Est-ce que tu as un regret dans ton management avec Thibaut ou est-ce que tu referais tout pareil finalement?
Il y a plein de choses qu'on peut toujours faire mieux, mais sur la globalité, je pense que je ne changerai pas grand-chose parce que on a essayé de faire le mieux possible ensemble, donc ça c'est quand même une chose importante. Après, comme j'ai dit par ailleurs, on n'échappe pas à son destin, donc je pense qu'au niveau de la cohésion et du travail, les choses ont été plutôt bien faites.
Ok.
Ok. Moi, Sarah Pitkowski.
Moi, j'ai une question, Marc. Est-ce que l'équipe et que toi tu sois au courant en amont normal, mais est-ce que c'est pas un désavantage ou un inconvénient pour l'équipe, pour les ambitions de l'équipe sur une saison d'avoir un des coureurs qui l'annonce en début de saison qu'il va arrêter en fait?
Non, moi je vois plutôt un avantage dans la mesure où déjà on le subodorait depuis quelques mois à travers ses attitudes, les petits mots au détour d'une phrase. Donc je pense que c'est bien de clarifier la situation pour tout le monde, comme ça au moins on lui posera plus la question quand est-ce que tu arrêtes, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine, etc. etc. Donc il y a un certain confort pour le coureur et pour l'équipe. Puis vous savez, une fois pour les sportifs de haut niveau, quand on sait que dans la tête on est déjà tourné vers l'avenir, il vaut mieux préciser les choses, se libérer d'un petit poids. Et je pense que le fait de l'avoir annoncé, c'est une excellente nouvelle pour Thibaut, qui est aujourd'hui décontracté, relax et qui va prendre du plaisir et qui va aller chercher des résultats, parce qu'il sera pas dans la notion de demain, il sera dans la notion d'aujourd'hui, donc ça devrait être bénéfique pour lui et pour l'équipe.
Christophe Cessieux.
Marco, tu avais annoncé qu'il allait faire le Giro. Oui. A priori, il va faire le Giro.
Il s'en vient
à la question. Tu as vu dans son interview, il dit qu'il aimerait bien aussi faire un dernier Tour de France. Ça risque de te poser un problème, ça?
Bah, surtout qu'il m'en avait pas parlé spécialement avant.
Ah oui, voilà.
donc tu étais au courant, mais pas de tout, en fait.
Je l'ai découvert dans l'interview. Alors, écoutez, on verra le moment venu. Pour l'heure, il y a un Giro à disputer. Et ensuite, il y a la meilleure équipe possible à construire pour le Tour de France. Donc, on va pas se priver de talent si la situation le permet. Néanmoins, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas encore d'actualité. Pour l'instant, on est tourné vers le début de saison et le Giro, et on fera un point à ce moment-là.
Marc, tu vas pas remettre David Godu de côté, hein. C'est mon poulain, fais attention.
Mais il est absolument pas question de le mettre de côté. Merci. Au contraire, il va être au centre de la vie de l'équipe pendant le Tour de France et dans les mois qui vont précéder.
Ouais, c'est vrai que d'ailleurs dans l'interview que l'on a enregistré hier avec Thibaut Pinot, je lui dis mais tu te rends compte Thibaut que tu mets une pression dingue maintenant sur Marc Madiot parce que tout le monde a envie de te voir sur le Tour. Donc je vous laisserai découvrir la réponse, mais c'est vrai que la pression sera là, hein, quand tu vas annoncer l'équipe quand même.
Oui, mais ça fait partie du job. Moi j'ai un groupe de coureurs qui a été identifié par rapport au Tour de France, et puis il y a pas mal de compétitions qui vont se dérouler, donc les projets que l'on a au mois de décembre peuvent bouger, évoluer. L'essentiel étant que l'équipe reste extrêmement compétitive, et c'est le challenge du patron d'équipe que de faire en sorte que les coureurs soient au rendez-vous.
Tu vas pas nous faire la même chose que Patrick Lefebvre la saison dernière avec Alaphilippe quand même?
Mais je ne suis pas Patrick Lefebvre.
Bon, en tout cas, Marc, si tu le prends pas, on sait où t'habites, hein. Donc, fais attention. Marc, juste une dernière observation. Tu n'as pas dû l'entendre, mais il annonce dans cette interview, avec un brin de malice, qu'il a pris un pari avec ses coéquipiers. Il voudrait continuer 6 mois de plus, donc de janvier à juin 2024. Il voudrait continuer s'il a le maillot arc-en-ciel sur les épaules.
Non, mais
s'il remporte les championnats de France. J'ai dit quoi, arc-en-ciel ? Pardonnez-moi, bleu, blanc, rouge. Tu savais ça ? C'est dans le deal, ça
non,
va ça...
Non, c'est pareil, c'est une découverte.
Donc en fait, Thibaut Pinot, il fait un peu comme bon lui semble, en fait. Il fait ce qu'il veut.
Non, mais je te rassure tout de suite, le championnat de France, s'il peut être champion de France, c'est terminé sa saison et sa carrière avec un titre de champion de France, je signe tout de suite. Hein. Donc après, faire des contrats de 6 mois, ça peut se faire, mais aujourd'hui, ça n'est pas d'actualité.
Ok, merci beaucoup mon Marc, en tout cas Marc Madiot, d'avoir réagi dans les grandes gueules du sport. On te retrouve très vite dans cette émission, évidemment. Merci beaucoup Marc, le patron de la Groupama FDJ, et à bientôt sur RMC. Il y a un live actuellement avec Arnaud Souk. Oui, il est très bon en vélo, mais il est aussi très bon en ski. Où en est-on? Quelle est la course? Dis-nous tout, Arnaud.
J'ai surtout le don de me déplacer de Paris à Saint-Anton en l'espace de quelques minutes, et ça c'est très très fort. Nous sommes en Autriche, dans le Tyrol, dans l'ouest de l'Autriche. C'est donc un super G féminin ce matin. Cela devait être une descente, mais pour des raisons liées aux conditions d'enneigement qui sont relativement faibles, y compris dans le Tyrol autrichien, cette descente est devenue un super G. Donc c'est une mini descente, si vous voulez. On arrive un tout petit peu plus haut pour l'instant. C'est l'italienne Federica Prignone qui domine ce super G devant deux Suissesses, Johanna Hélène et Lara Gutberami. Belle performance pour Tessa Worley, qui pour l'instant se classe en quatrième position et qui devrait aujourd'hui rentrer a priori dans les 5 ou dans les 7 premières positions, ce qui est bien pour Tessa Worley. Voilà, ça va lui redonner un petit peu de la confiance. C'est plus une spécialiste du slalom géant, mais elle est également performante sur cette discipline du super G. On rappelle que dans 3 semaines, il y a les championnats du monde à Courchevel-Méribel, et il est important pour nos Français de prendre de la confiance, parce que pour l'instant il n'y a pas eu de victoire depuis le début de la saison. Donc même chaque place d'honneur est importante, et ce sera le cas aujourd'hui pour Tessa Worley. Ça s'est moins bien passé pour Roman Miradoli, qui pour l'instant pointe en 16e et dernière position des skieuses qui sont arrivées en bas.
Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, c'est l'instant reportage.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Et cette semaine, nous sommes partis à Courchevel, Méribel, les deux stations françaises qui vont accueillir les mondiaux de ski du 6 au 19 février prochain. 14 ans après l'Alpe d'Huez, les deux sites des Trois Vallées se préparent. C'est une vraie ruche pour un vrai rush. Notre correspondant Edouard Jay est avec nous. Salut Edouard.
Salut JC, salut à tous et à toutes.
Salut Edouard.
Minute, ou presque, sont vrais, c'est vrai, sont comptées.
Ouais, effectivement, on compte désormais en minutes, alors qu'il reste 22 jours avant l'ouverture, avec la bonne nouvelle de la semaine. Il a neigé, des flocons naturels qui font du bien au moral local, au paysage un peu plus hivernal et bien sûr à la piste. Mais cela implique un travail supplémentaire nocturne. Sébastien Santon, patron des épreuves masculines sur Courchevel, nous en dit plus.
Donc là, on a eu une bonne 40 cm de neige qui est tombée. Donc de la neige fraîche, on est obligé de la mélanger. Donc c'est avec les dameuses, avec la lame, ils mélangent l'ancienne neige qui était déjà assez compacte avec une bonne densité en faisant un rouleau avec la machine, et ça permet de mélanger. Donc ça prend plusieurs nuits vu que la piste quand même est assez longue.
Ainsi, 6 dameuses entre 2000 mètres d'altitude, l'altitude des sommets respectifs, l'éclipse sur Courchevel et le roc de fer à Méribel, et 1300 mètres, l'arrivée, et bien se relaye de nuit donc à chaque chute d'or blanc. Et le jour, à Méribel, et bien Yannick Favière, le boss, inspecte l'œuvre de la nuit avec une perceuse d'un mètre de long.
Alors là, ma mèche est un peu gelée, j'ai du mal à rentrer. Je vais construire de la neige maintenant là. Ouais, pas énorme, mais il faut en remettre encore.
Alors, les consignes sont passées, du coup, aux pisteurs par radio de mettre à leur programme de l'après-midi d'amener de la neige supplémentaire quelques mètres cubes sur la zone.
Okay. Bah, quelle là et quelle entrée de fracois aussi, il y a le plancher à mettre.
Ouais. Car les règles sont strictes, il faut un minimum de neige tassée de 50 à 80 cm pour un tapis blanc uniforme, clé de la sécurité et de l'équité sportive. Yannick Favière, patron des épreuves féminines.
La perceuse me donne l'épaisseur et aussi me donne un petit peu la densité de la neige. Ça me permet de savoir si c'est compact dessous, humide, il y a pas mal de ressentis.
Un travail complété par des relevés précis, millimétrés, renvoyés par les dameuses équipées de GPS.
Alors Edouard, voilà pour le travail effectué cette semaine, mais tout n'est pas terminé, bien au contraire, toujours sur la piste. Les 10 jours à venir là vont être très chronométrés.
Ouais, encore quelques heures à faire tourner les enneigeurs pour créer avec donc de la neige de culture. Je rappelle, c'est de l'eau propulsée sans additifs chimiques à température négative. Les lançoirs, donc, au départ des quatre épreuves principales, toujours sur deux sites, donc il faut multiplier par deux les opérations, des enneigeurs qui seront enlevés le 21 janvier prochain, puis la mise en place des tours pour les 30 caméras télé par le personnel des pistes, puis l'injection d'eau dans le manteau neigeux pour donner par réaction naturelle une base glacée, solide, résistante aux multiples passages des coureurs, puis l'installation des fan zones et aussi et surtout des filets de sécurité, Sébastien Santon, sur l'éclipse à Courchevel où se dérouleront les épreuves masculines.
Donc on a 1,5 km de grands filets A, c'est des filets qui font 4 mètres de haut pour sécuriser par rapport aux arbres. Et puis après on va mettre jusqu'à 30 km de filets sur cette piste. Donc on a plusieurs rangées, des fois on a 3 rangées tous les 2 mètres qui permet d'arrêter les coureurs en cas de chute.
Idem à Méribel pour les filles sur l'autre vallée avec un objectif, Yannick Favière.
La descente est totalement étanche des deux côtés. Donc quoi qu'il arrive, il y a au moins un filet, voire en descente tout le temps deux filets. Et des fois, ça peut aller à trois, voire quatre filets, plus des airfens, donc c'est des matelas un peu gonflables qui amortissent le choc en cas de choc un peu trop frontal.
Alors vous le voyez, il y a encore énormément de tâches lourdes et précises à remplir d'ici le 5 février et la cérémonie d'ouverture. Le détail apparaît d'ailleurs dans les bureaux du comité d'organisation au pied du tremplin de Sceaux au Prat à Courchevel. Sur les murs, à l'aide d'immenses tableaux récapitulatifs journaliers, plein de couleurs et de post-it.
Ouais, tu parlais de ces bureaux. D'ailleurs, un autre compte à rebours a débuté en novembre après une journée des bénévoles à Albertville où tous les candidats ont été reçus. Celui maintenant de l'affectation des 1200 équipiers et ces bénévoles dont certains arrivent dès demain, dimanche.
Oui, il faut épauler la quarantaine de salariés à temps plein arrivés au fil des mois depuis 2018, date à laquelle la Fédération Internationale de Ski, la FIS, confie à Courchevel et Méribel l'organisation de ces mondiaux. Et là, Colline Derria, responsable des équipiers, entre en scène devant son écran ordinateur pour répartir justement des missions des 1200 équipiers qui arrivent pour certains dès aujourd'hui donc, à 22 jours des épreuves.
On a des personnes qui vont gérer tout ce qui est banderoles de publicitaires sur la piste, tout ce qui est airfun, c'est les grosses banderoles à l'arrivée qui protègent aussi les coureurs dans la zone d'arrivée. On en a sur la zone de départ, on en a pour faire de l'arrosage si jamais il faut réinjecter la piste.
Alors du personnel qui s'est porté volontaire, à qui on fait confiance sur leur réponse dans le questionnaire à la ligne « Savez-vous faire du ski ?» Mais vous savez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Colline Derria.
On va faire des tests de ski pour voir s'ils peuvent vraiment tenir sur la piste parce que c'est vrai qu'au-delà d'être sur une piste dure habituellement, c'est une piste qui va être injectée, donc ça veut dire qu'elle va être vraiment béton, très dure, et donc il faut des personnes qui sachent skier, qui aient des skis vraiment bien préparés et qu'on soit capable de les envoyer avant des coureurs sur la piste et qu'ils ne tombent pas à ce moment-là.
Bref, on ne va pas chômer dans les 3 semaines à venir pour livrer à 6 mois de la Coupe du Monde de rugby, à 18 mois des JO de Paris, et bien un événement mondial auquel le président de la République, Emmanuel Macron, a promis d'assister. Colline Derria résume ainsi la période qui s'ouvre.
Intense. ça va être vraiment intense. Il va falloir s'adapter aux conditions climatiques parce qu'on est un sport d'extérieur. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout le temps qu'il fera et il faudra s'adapter. Donc voilà, ça va être très intense, mais très enrichissant et on a vraiment hâte d'y être.
Alors, et pour slalomer entre les éléments extérieurs venus du ciel, hein, vous l'avez compris, l'élément clé de la réussite des mondiaux, eh bien, un deuxième spécialiste de la météo dans les Alpes épaulera dès lundi, 24 heures sur 24, les organisateurs pour l'agencement de cette cruciale dernière ligne droite.
Les championnats du monde à suivre en février, à partir du 6 février, évidemment, sur RMC. Merci beaucoup, Edouard Jay, pour ce reportage au plus près des organisateurs. Les préparatifs, vous l'aurez compris, vont continuer durant ces 3 dernières semaines. Marie, rapidement, tu connais évidemment parfaitement la montagne, Courchevel, Méribel. C'est un événement mondial là qui nous attend.
Oui, c'est un événement mondial. J'y sais, effectivement, il y aura, je l'espère, beaucoup de monde. Des enfants qui vont avoir l'occasion de monter en bus pour aller voir ce que c'est qu'une course internationale avec les garçons, les filles en même temps sur deux sites un petit peu différents, mais vraiment tout à côté. C'est vraiment la fête du ski alpin pendant 3 semaines là-haut. Après, Edouard Jay a bien fait le tour de toutes les différentes familles de gens qui vont travailler pour que tout ça se passe correctement.
On se le représente pas. Hein.
C'est monstrueux. Et jusqu'au bout, ce sera sous tension parce que ça reste un sport outdoor et que les conditions climatiques, les aléas...
Comme ça a été le cas pendant les vacances de Noël...
Tout peut être très compliqué à gérer. Tiens, oui, entièrement, Christophe. Donc voilà, il va falloir faire preuve d'agilité et il va falloir qu'on soit très bon. Et on engage quand même notre image de station, des plus belles stations du
du monde dans les Alpes. Donc voilà, il va falloir qu'on soit à la hauteur. Et je pense que tout le monde est bien, bien sous pression.
Et on sera là sur RMC, évidemment, je le disais, à partir du 6 février, en direct de Courchevel, Méribel, pour vous faire vivre au plus près ces championnats du monde, avec notre spécialiste aussi, Christophe Cessier.
Avec un Alexis Pinturo à la maison, je te coupe, mais parce que c'est quand même juste génial pour lui, okay, au top de sa carrière, de pouvoir vivre ces championnats du monde chez lui.
Exactement, on suivra nos Français. 11h45, on se retrouve dans quelques instants avec vous, les auditeurs. Vous voulez interpeller une GG, c'est maintenant le 32-16, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
Jean-Christophe Drouet.
11h49, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport, toujours en direct de l'Alpe d'Huez avec nos grandes gueules, Stéphane Brun, Christophe Cessieux, Marie Martineau, Marie Martineau, et j'ai oublié Sarah Pitkowski, pardonnez-moi, je suis un peu fatigué. Oui, ça y est, elle est vexée, elle est énervée.
Elle se casse.
Oui, non, mais ça y est, pas. Non, mais oui, mais moi, les tennis women, je confonds de raquettes. Voilà, je suis désolé, ma chère Sarah Pitkowski, alors que Stéphane Brun me montre quelque chose. Steve Mandanda va mettre un terme à sa carrière internationale.
Est-ce qu'on n'a pas loupé encore la sortie de Steve Mandanda?
Désolant.
On en parlera peut-être. Ouais. Merci beaucoup.
Sans en colère.
Cette information de dernière minute, c'est incroyable, c'est du direct. Et tout de suite, le grand gagnant.
RMC vous envoie une semaine à la montagne.
Harmonie est avec nous. Bonjour Harmonie.
Bonjour.
Salut Armo.
Harmonie,
hello.
J'ai le grand plaisir de t'annoncer que tu as remporté un séjour d'une semaine pour 4 personnes à la montagne.
Mais c'est trop bien.
Tu es content? Tu vas souvent au ski ou pas?
Ah bah, en fait, on en revient avec mon amoureux. Donc ça tombe bien.
Ah bah, et vous avez aimé? C'était où?
Alors, on est parti à Chine et on a adoré, ouais.
Alors je vous conseille l'Alpe d'Huez, c'est absolument incroyable, hein, évidemment, mais vous ferez bien comme vous voudrez. Harmonie, félicitations pour ce magnifique séjour et profite bien, voilà, sur les pistes, et surtout très attention, on fait attention sur les pistes.
Merci beaucoup.
Le port du casque, c'est très important. Si vous voulez remporter comme Harmonie un séjour demain d'une valeur de 2000 euros, vous envoyez Neige au 7-32-16. Neige au 7-32-16. Tout de suite, c'est à vous les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport. Et vous,
Luc nous appelle au 32-16. Bonjour Luc.
Bonjour.
Salut Luc.
Salut Luc. Merci.
Bonjour
pour ta
et merci
fidélité.
De la parole.
Bah alors, écoute, avec grand plaisir.
Tu de Didier Deschamps.
Ah, tu veux t'attaquer à qui là ce matin?
Je me souviens plus de du consultant.
Bah, en l'occurrence,
je pense que c'est Stéphane Brun.
Ouais,
c'est pas lui.
Vas-y Luc, vas-y, on t'écoute.
Alors voilà, moi je voudrais rappeler 3 points. Déjà le pedigree de Didier Deschamps, qui nous a ramené la Coupe du Monde en tant que joueur en 98 et qui nous a amené la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur en 2008 et une finale cette année. 2018, pardon. La deuxième des choses, c'est que ce qu'on reproche à Noël Le Graët, c'est, si je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est des faits de harcèlement sexuel et la communication par rapport à
Zinedine
à la
Zidane.
Du football français Zinedine Zidane. Ben, c'est deux choses que, pour moi, on ne peut pas imputer à Didier Deschamps. C'est deux choses à laquelle ils sont totalement étrangers. Il est totalement
Luc,
étranger.
Juste, je te coupe. Ce qu'on lui reproche aussi, c'est un peu d'avoir décidé de la durée de son contrat et de l'avoir annoncé. Et Noël Le Graët qui a annoncé dans cette interview dans Bartoli Time que voilà, ils avaient déjà pensé au nom du successeur de Noël Le Graët. Voilà, c'est juste pour la précision et je te laisse poursuivre.
Oui. Après, Didier Deschamps, donc il a été prolongé avec la validation du COMEX quand même. Hein, c'est pas Noël.
Non, validation de Noël Le Graët.
Oui.
Après, le COMEX a mis son nez dedans et à l'unanimité a voté pour le contrat. Il est bon, il est bon.
Voilà. Donc c'est pas une décision unilatérale de Noël Le Graët de
prolonger. Ah bah si. De base.
Ils l'ont signé tous les deux.
Oui. Oui.
Il y a pas eu un accord du COMEX avant.
Ils ont donné leur accord là-dessus.
Non, pas avant. Ils ont été.
Après, oui.
Ils sont pas revenus en arrière.
Oui, après, il a donné le choix de le faire. Et puis
Mais est-ce que tu penses, Luc, que Didier Deschamps, en fin de contrat, est allé devant le COMEX pour expliquer son plan du futur, ce qu'il prévoyait pour cette équipe de France, pour plaider sa cause, même s'il n'a pas la plaider, mais il y a quand même un bilan à faire sur une fin de Coupe du Monde. J'ai pas l'impression que Deschamps, il ait fait son bilan sportif et ce qu'il voyait à court ou moyen terme pour cette équipe de France. J'ai l'impression que le contrat, bravo Dédé, je t'avais dit demi-finale, t'as fait demi-finale, allez, prends ton stylo plume et tu signes en bas jusqu'en 2026.
Oui, mais en quoi c'est un rapport avec ce qui est reproché à Noël Le Graët et en quoi il devrait payer les pots cassés de ce qui lui a...
Mais parce que
lui qui a la tête. Et c'est lui qui doit assumer. C'est-à-dire quand on prend une décision et qu'on est élu avec une liste, on partage les décisions qu'on prend pour son équipe de France.
Et puis Luc, Le Graët a tellement dit à maintes et maintes reprises et vice-versa que Le Graët-Deschamps, c'était un binôme qui marchait main dans la main. Un binôme main dans la main, ça veut dire que quand il y en a un qui fait quelque chose, le deuxième, il est plus ou moins associé à ce binôme-là. Je dis pas que Deschamps a forcément cautionné tout ce qu'on reproche à Noël Le Graët, mais si c'est ton ami, t'as le droit aussi de lui dire attention président, attention ami, fais attention à ce que tu vas dire, fais attention à ta communication. Et il l'a toujours défendu, Deschamps.
Merci Luc, on est pressé par le temps, merci d'avoir pu donner ton avis et de t'être frotté au GG. Stephen, reste bien près du micro parce que Jérôme nous appelle. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour GG. Oui.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
C'est pour Stephen encore, c'est ça?
Ah ben c'est pour Stephen.
Il
veut pas Stephen Le Graët. Et ben pour moi, il s'attaque à Thibaut Pinot comme Le Graët s'attaquait à Zinedine Zidane, les gars. Moi ça me va pas du tout.
Vas-y, on t'écoute.
Moi ça me va pas du tout parce que tu sais, Postecoglou il disait, je sais pas ce que c'est qu'être un grand champion, mais pour moi le grand champion c'est celui qui résiste à la douleur sans mettre de plus que les autres. Et tu vois? Thibaut, il a gagné. Il a réussi à résister à la douleur sans mettre de plus que les zones. Alors oui, peut-être qu'il n'a pas de vrai titre sur un grand tour. Mais peut-être qu'il n'était pas capable, finalement, de gagner un grand tour. Alors en 2019, peut-être. Mais il avait des mecs, quand même, qui étaient très forts autour de lui. Certains qui étaient dopés, d'ailleurs, je tiens à le rappeler. Et puis, je suis désolé. Thibaut, c'est le sport français. C'est bleu, blanc, rouge. C'est le panache. Moi, il m'a fait vibrer au même titre que Virenque ou Jalabert. Il a gagné des superbes étapes. Le Tour de Lombardie, c'est une apothéose peut-être de sa carrière, peut-être pas assez pour toi, Stephen. Mais moi, Thibaut, c'est le vélo comme on l'aime. C'est des valeurs d'abnégation, souvent blessé. Il est toujours remonté. Il a fait beaucoup d'efforts pour revenir au meilleur niveau à chaque fois. Et là, voilà, là, il arrive en fin de carrière. Il s'enlève de la pression en annonçant sa retraite. Il va faire une dernière année où il va nous faire du bien, il va nous faire rêver. Et voilà, mais on touche pas à Thibaut Pinot.
Alors, plusieurs choses, Jérôme, c'est que je suis très content d'apprendre à 11h55 le samedi 14 janvier que Zidane et Thibaut Pinot font partie de la même caste. Ça, c'était une information que je n'avais pas. Merci. Ensuite, Jérôme, pour Thibaut Pinot, tu représentes bien la majorité des Français, Jérôme, c'est-à-dire que tu aimes les beaux perdants. Voilà, ça fait kiffer la France.
Il a gagné
les gens,
aussi. Hein.
Les gens qui sont vaillants, qui font vibrer les gens sur la route, mais qui, au final, s'en sortent avec un palmarès, certes, très bien, mais en deçà.
C'est pour ça qu'on aime l'équipe de France de basket,
de ce qu'il était capable. Non. C'est faux parce que tu l'aimes pas, Christophe. Donc,
autant que toi, tu aimes Pino.
Mais moi, Pino, je dis pas qu'il m'a pas fait vivre des émotions, mais je trouve qu'il. Je l'aurais pu faire plus, en fait.
Oui, et puis d'ailleurs.
Vous êtes.
Bon, Jérôme, il parle de champion et même Thibaut Pinot.
Vous êtes contenté du minimum. Vous vous êtes contenté du minimum. Et pour moi, Thibaut Pinot ne fait pas partie de la classe des grands champions. Très grand coureur, oui, mais c'est pas un champion.
Jérôme, une très bonne grande gueule. N'hésite pas à nous rappeler quand tu veux au 32-16. Je sais pas si on reparlera tout le temps de Thibaut Pinot, mais il reste une saison. Donc on espère beaucoup parler de lui. Et demain, on reparlera de vélo avec d'autres Français qui ont annoncé jouer le général du Tour de France. Et Pierre Amiche nous fera son homme heureux à 10h30 sur ce sujet. 11h50. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup les GG.
Avec plaisir.
C'est très sympa, mon petit.
Merci à tous.
Ouais, c'était pas mal.
Ouais.
Il sera là demain encore. Il sera dans quel état demain.
Stephen, merci beaucoup. Tout va bien se passer. On sera là à partir de 9h.
Encore aujourd'hui.
Merci Sarah Pitkowski. Non, on va. Oui, du poker, oui, mais pas trop de ski. Merci beaucoup Marie Martineau. Merci à toutes les équipes techniques autour de Dimitri Grossi, Bruno Fontaine d'avoir permis cette retransmission. On se retrouvera à partir de demain, évidemment. Et Rémi Soula, bien sûr. J'oublie du monde, les copains, mais je vous embrasse tous. Je remercie aussi Pierre Amiche à la production et Christophe Cessieux pour la raclette. Merci beaucoup. On vous embrasse. Salut.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.